c'est notre dernière chronique sur la proche aidance aujourd'hui. On est dans notre semaine 10. Steve Ménard de l'Appui est dans mon studio pour m'accueillir en vacances en plus.
Oui, oui, bonjour.
Professionnel et dévoué à sa cause, à son travail jusqu'à la dernière minute. Steve, en fait, aujourd'hui, on va parler d'un moment qui n'est pas toujours facile pour les proches aidants parce qu'arrive un moment où on doit faire héberger notre proche. On ne sait toujours pas quand est-ce que c'est le bon moment, pas le bon moment. Nos proches ont des droits aussi, c'est un peu compliqué. Fait qu'on va parler de tout ça, on va parler aussi du deuil et de la possédance, puis après, ben, il faut retrouver sa vie.
Oui, absolument. Bien, en fait, je trouvais qu'aujourd'hui, c'est pour clore un peu les chroniques, là, c'était intéressant de parler un peu bien, comment on peut à obtenir des services. Qu'est-ce qu'on fait quand on en vient avec l'hébergement? Hein? Parce que quand on arrive à cette étape-là, c'est souvent un peu une des dernières étapes de la prochaine aidance. Hein? Parce que, bon, soit qu'on est à bout de ressources, on n'a plus les ressources disponibles pour pouvoir nous soutenir dans notre rôle. Puis,
manque d'énergie aussi.
Exactement. On peut être fatigué, on peut être épuisé.
Ça peut être trop lourd.
Puis oui, puis on peut être tout simplement aussi vieillissant, hein, parce que souvent, c'est un parent qu'on s'occupe. Donc, quand vient le temps de prendre la fameuse décision, hein, de dire, bon, ben moi, je ne peux plus assumer mon rôle, donc on doit regarder pour de l'hébergement. C'est un gros morceau. C'est un gros morceau, puis ça amène une foule d'émotions. Hein. Les gens vont se sentir coupables. Ils vont se sentir des fois aussi... jugé par les autres, hein, parce que bon, qu'est-ce que la famille, qu'est-ce que les amis vont penser parce que là, je place mon père ou ma mère, ou je place mon enfant parce que là, je ne suis plus capable de m'en occuper. Donc, ils font face à une multitude d'émotions et de sentiments. Puis, évidemment, ben faut penser aussi à notre aidé, à la personne dont on s'occupe, qui, lui, va vivre un grand changement aussi, hein, parce que ça va être un changement de milieu de vie. Ça va être un changement de son univers aussi autour de lui. Il va devoir s'adapter à de nouvelles personnes. Quand on parle de l'hébergement en CHSLD, exemple, il va devoir conjuguer avec tout ça, tu sais, des nouvelles personnes.
Partager une chambre.
Exactement. Puis s'habituer avec le personnel. Puis il y a toujours la question de la gêne aussi, pour les soins d'hygiène et toutes ces choses-là. Donc, pour l'aider, c'est très déroutant aussi. Puis malheureusement, ce qui va arriver souvent, c'est que l'aider... Bien, il va transférer, en fait, son sentiment, sa frustration, son négativisme sur le proche aidant.
Mais c'est la personne la plus proche.
Bien oui, exactement. Fait qu'on va entendre des phrases comme « Pourquoi tu m'as placé? Tu viens pas me voir assez souvent, je suis pas bien ici, ramène-moi à la maison. Tu m'aimes plus pour me faire ça. »
Donc,
c'est des choses qu'on entend souvent, oui. Puis pour le proche aidant, c'est énormément lourd au niveau émotionnel. Donc, faut pas penser qu'à partir du moment où est-ce qu'on place notre aidé, que tout va bien après, puis que la charge émotive, la charge physique diminue aussi parce qu'il y a toute cette étape de transition-là qui peut s'échelonner sur plusieurs mois avant que l'aidé s'habitue à son nouveau milieu de vie et aussi que le proche aidant, lui, puisse se sentir libéré. Donc, c'est des éléments qu'on retrouve vraiment souvent à ce point-là. Puis il y a aussi tout le volet, le proche aidant qui va placer son aidé, des fois, il va avoir de la difficulté à décrocher. L'objectif, hein, quand on va en hébergement, c'est de pouvoir justement retrouver sa vie un peu, se refaire une santé, se refaire de l'énergie, vaquer à ses occupations, tu sais, reprendre le contrôle de sa vie. Et ce qu'on voit quand même assez régulièrement, c'est que des proches aidants continuent à aller au CHSLD tous les jours et ils passent des heures et des heures et des heures. Donc là, à ce moment-là, oui, c'est ça. T'sais, à ce moment-là, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on se dit, le proche aidant, finalement, il n'est pas si libéré que ça. Donc, on essaie de travailler avec eux. Il y a des services qui existent dans les CHSLD maintenant, puis aussi avec l'appui, avec d'autres organismes, des groupes d'entraide et de discussion pour amener le proche aidant un peu à cheminer là-dedans, puis à se déculpabiliser, à pouvoir reprendre un peu le contrôle de sa vie. Puis, ce qu'on veut surtout pas, c'est pas qu'il coupe le pont avec son proche aidant, mais c'est qu'il aille le visiter de façon... plus raisonnable, si on veut, parce que, tu sais, on en voit là, qui sont là de 8 heures le matin à 8 heures le soir. En CHSLD.
Écoute, j'avais pas idée de ça. Oui. Moi, j'avais idée qu'à un moment donné, il faut surveiller pour voir ce qui se passe là-bas. On lit tellement de choses dans les journaux, des fois, on est inquiet. Moi, je me disais, il faut y aller chaque jour, mais pas passer des heures et des
Exactement.
Heures.
Exactement. Bien, tu sais, ce qui est important, c'est d'y aller avec ce comment on est à l'aise, en fait. Hein? Mm-hmm. Puis on va souvent suggérer au prochain aidant d'y aller pour un moment qui va être agréable. Donc, ça peut être, par exemple, aller déjeuner avec son proche le matin.
Ben oui.
Ça peut être, exemple, aller faire une petite sortie. Ça peut être aussi aller faire une petite après-midi, jouer un petit jeu de société, jouer aux cartes. Ça peut être aussi, il y en a qui vont aimer la proximité, donc ça peut être d'aller faire un petit soin d'hygiène, une petite toilette, d'aller faire les cheveux, aller couper les ongles, des choses comme ça. Donc, des moments où est-ce que on peut se retrouver puis être proche ensemble puis que c'est agréable pour les deux.
Puis si on est capable de les sortir à l'extérieur, des fois, quand c'est possible, pour prendre l'air.
Oui, tout à fait, tout à fait. C'est sûr que ça, par exemple, petit bémol à éviter peut-être dans les premiers mois de placement, hein, parce qu'après ça, de ramener notre personne, là, ça peut être un enjeu. Donc, parce que la personne ne voudra pas retourner. Donc, attendre vraiment que le climat soit favorable et que l'aider, là, il se soit bien acclimaté à son milieu de vie. Puis après ça, ben oui, quand c'est possible, des sorties, des événements familiaux, des mariages, des naissances, des fêtes d'enfants, des choses comme ça, ben on peut aller chercher notre proche.
Moi, je parlais de les sortir dehors, parce que dans un CHSLD, à un moment donné, on est toujours dans une chambre. Fait que si tu veux rester en forme, ben il faut que tu vois un peu la lumière, il faut
aller prendre l'air. Oui, absolument, absolument. Ça, c'est très, très, très bénéfique, effectivement.
Idée. Oui. Là, j'ai une question à te poser, parce que tu sais, maintenant, c'était peut-être pas le cas avant, mais maintenant, c'est encore plus sévère. Des fois, l'aider, il veut pas s'en aller. Tu sais, puis il faut attendre qu'il veuille. Dans des situations où, évidemment, ils sont très en danger, là, ben on peut peut-être avoir recours à des travailleurs sociaux, on peut se faire aider, mais il y a des fois où ils veulent pas partir. Ils sont entre les deux, là.
Tout à fait, tout à fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'habituellement, quand la situation devient lourde et critique, habituellement, le médecin, les médecins, les travailleurs sociaux, tout ça, sont dans le dossier. Fait que ce qui est important de comprendre, c'est que là, à ce moment-là, tu sais, il faut user de ces réseaux-là, puis il faut travailler en collaboration. Donc, on peut parler au médecin traitant, on peut parler à notre travailleur social en disant, ben écoute, là, moi, je suis allé au bout de ce que je pouvais aller, hein, ou je suis fatigué, ou c'est plus possible et tout ça. Puis, il va y avoir une équipe multidisciplinaire qui va se mettre en place pour travailler avec ça, justement, pour qu'on puisse amener l'aider à accepter que là, est venu le temps là, de faire le fameux placement. Donc, il ne faut pas que la charge repose uniquement sur nous. On peut se faire aider de tout ce réseau-là. Mais bien souvent, tu sais, dans la majorité des cas, ce qui va arriver, c'est qu'il va arriver un événement particulier, exemple une chute. Le prochain aidant va tomber malade ou quelque chose comme ça, puis le réseau de la santé va embarquer parce qu'il va y avoir une hospitalisation ou quelque chose comme ça, puis à ce moment-là, ils vont dire, bien, écoutez, le retour au domicile, il n'est plus possible. Puis là, tout va s'enclencher. Okay. Fait que ça ne reposera pas sur le prochain aidant.
Puis des fois, on sait, quand ils sont rendus là, mettons, ils sont à l'hôpital, il s'est passé quelque chose, puis on sait que ça prend du temps avant de pouvoir aller, par exemple, en résidence, parce qu'ils ne vont pas nécessairement tout de suite en CHSLD. Oui. Fait que là, des fois, on sait qu'il y a des listes d'attente qui peuvent aller jusqu'à un an et demi. Fait que qu'est-ce qui se passe avec notre proche à ce moment-là? Il le garde à l'hôpital?
Il y a plusieurs possibilités. C'est sûr que, tu sais, des fois, quand on attend, mettons, pour un placement en CHSLD, habituellement, ils vont le garder à l'hôpital ou ils vont y aller avec un hébergement temporaire, tu sais, dans une maison de convalescence, des choses comme ça. Ou des fois, ils vont regarder au niveau du réseau familial, tu sais, s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut en prendre soin temporairement. Mais tu sais, habituellement, quand le proche aidant est au bout du rouleau, là, le réseau prend en charge. Là.
Ça donc, va assez vite.
Oui. C'est vraiment au niveau, des fois, on est malchanceux, puis là, ben, il n'y a pas de place disponible et tout ça. Mais des fois, tu sais, ça peut prendre juste quelques jours, quelques semaines. C'est très rare là, qu'on va attendre des mois et des mois avant d'avoir une place. Là.
OK, dans cette situation-là. C'est très intéressant ce que tu nous racontes. Puis là, on parle du deuil et la post-aidance, parce que c'est quelque chose de particulier. Tu as accompagné tes parents, tu as accompagné ton enfant pendant des années et des années. Tu as mis toute ton énergie puis tout ton amour là-dedans. Puis là, tu t'es comme un peu oublié aussi. Arrive le moment où il y a une espèce de deuil, là, parce que même si tu étais au bout de ton rouleau, il y a un vide.
Oui, tout à fait. Le post-aidant, c'est un nouveau concept hein, qui est émergé depuis 2-3 années. Puis on s'est beaucoup intéressé à ça à l'appui, nous. On a développé beaucoup de contenu, de formation aussi. Puis on a des groupes de soutien pour la post-aidance parce que, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le décès de la personne qu'on aidait, n'est pas une finalité de la prochaine aidance en soi. Ce que ça veut dire, c'est que, comme tu l'as bien mentionné, Annick, toute notre vie, on s'en est occupé, ou pendant une période X, Y, Z. Puis il y a un lien qui s'est installé, hein? Puis il y a un gros sentiment de valorisation, de sentir utile, cette symbiose-là aussi qu'on avait avec cette personne-là. Donc, quand la personne décède, on s'est rendu compte que oui, il y a un deuil, hein? Il y a un deuil de notre personne proche qu'on aime et tout ça, mais il y a un deuil de notre rôle aussi. Donc, ça peut se comparer, en fait, un peu comme quand on prend notre retraite. On est content de partir à la retraite. On dit, j'ai travaillé fort toute ma vie. Bon, puis là, maintenant, c'est à moi d'en profiter. Mais c'est un deuil d'un rôle parce que, ben, on
se préparer.
Ben oui. Ah oui, on en vient à ça. Exactement. Il faut se préparer parce que du jour au lendemain, ben, notre personne n'est plus là. Puis du jour au lendemain, ben, toutes les tâches, les choses qu'on faisait, où est-ce qu'on se sentait utile, où on se sentait valorisé, reconnu, il n'y en a plus. Donc là, la personne a dit, ben mon Dieu, tu sais, je suis qui, moi? Je sers à quoi? Qu'est-ce que je vais faire du reste de ma vie? Donc, la post-aidance, ça se prépare. Il faut avoir un plan de match pour quand mon proche va décéder ou qu'il va être hébergé ou autre situation, ben qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est quoi les choses que j'ai mis de côté dans ma vie, mes rêves, mes activités, les loisirs? Qu'est-ce que j'ai le goût de faire? Donc, c'est important de planifier ça parce que ça peut être extrêmement difficile. Si on se prépare pas, on va comme vivre un double deuil.
Oui, bien, c'est une question d'équilibre. Hein? C'est comme quand les enfants partent de la maison et on a tout mis nos œufs dans le même panier pour les enfants, on ne sait plus quoi faire. La retraite, c'est la même chose. Maintenant, on parle de post-aidance.
Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est vraiment important là, de bien préparer ça puis de se faire un plan de match. Puis aussi, j'aurais le goût de dire, Annick, de faire un bilan. Ça, c'est super aidant. Hein? De faire un bilan des dernières années, de ce que j'ai fait, de ce que j'ai accompli, des forces que j'ai trouvées en moi que je ne savais pas que j'avais. Puis des choses peut-être que je pourrais mettre à profit hein, pour continuer. T'sais, donc, exemple, mettons, j'ai trouvé que j'étais super bon pour préparer des repas, pour gérer les finances et tout ça. Bien, c'est pas dit qu'il n'y a pas des petites choses ou du bénévolat qu'on pourrait faire dans ces secteurs d'activité-là qui nous permettraient de continuer à se réaliser puis de se tenir occupés.
C'est ça, si tu jouais aux cartes toutes les après-midi avec papa ou maman parce que ça leur faisait du bien ou un jeu de société, je veux dire, il y a plein de bénévolats, on peut visiter
des personnes. Ben oui, on peut aller dans les résidences puis jouer avec les personnes, oui. Exactement, exactement. Puis c'est tous des éléments qui peuvent faire vraiment du bien puis qui peuvent faire en sorte que la personne, elle va continuer à se sentir utile, tu sais.
C'est vraiment intéressant, tout ce dossier-là. J'espère que ça vous a aidé du côté de l'appui puis du côté de tous les organismes qui sont venus sur cette émission. Moi, j'aimerais qu'on remercie Steve Gouin-Hivero, denturologiste. Eux, ils ont une succursale à Jonquière, à la Bip, à Lens-Saint-Jean. Et c'est eux qui ont donné le budget pour que vous puissiez venir faire des chroniques sur ces émissions pendant plusieurs semaines comme ça. Ça en prend des gens qui font de ce genre de choses-là pour aider les organismes communautaires.
Absolument, absolument. C'est vraiment apprécié. Puis merci à eux. Hein. C'est une belle tribune. La prochaine danse, c'est un sujet d'actualité. Puis je suis très content de constater que des entreprises, des organismes sont sensibles à ça. Puis pour l'appui, nous autres, ça a été une belle tribune. Donc, un gros merci.
Gros merci à toi d'avoir coordonné toutes ces entrevues-là, ces gens-là. Tu connaissais le réseau.
Oui.
Puis ça a été vraiment fort apprécié et ça a ajouté à la qualité du travail qu'on a fait ensemble. Merci infiniment. Je te souhaite des belles vacances.
Merci, merci. Puis un gros merci aux auditeurs qui nous ont suivis durant ces capsules-là.
Absolument. Puis vous pouvez trouver toutes nos chroniques sur le balado. Puis on va se retrouver au mois de novembre.
Parfait.
Cette chronique sur la proche aidance et pour les proches aidants vous a été présentée par Gouin et Vero, denturologiste, Jonquière, Labbé et Anse-Saint-Jean. Trois places d'affaires, un service hors pair. Pour rendez-vous, 418-412-4260.